journal Loïc Barrière. Les titres de cette édition, 19 enfants et 2 adultes tués lors d'un massacre dans une école primaire au Texas. Le président Biden appelle une nouvelle fois à réguler les armes à feu. 5 soldats turcs tués par des rebelles kurdes dans le nord de l'Irak. Ces pertes sont annoncées alors que la Turquie envisage une nouvelle opération militaire en Syrie. L'École supérieure de journalisme de Paris rend hommage à Shirin Abu Akleh. La première promotion arabophone de l'ESJ porte son nom et l'école a créé une bourse au nom de la journaliste palestinienne. Entretien avec Guillaume Jobin, président de l'ESJ. Nathalie Arthaud réclame l'augmentation des salaires pour faire face à l'inflation. La porte-parole de Lutte ouvrière est l'invitée de Pluriel ce mercredi. Enfin, l'arrestation aux Pays-Bas d'un Syrien soupçonné de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Syrie. L'Amérique sous le choc, un adolescent de 18 ans a ouvert le feu mardi dans une école primaire à Uvalde au Texas. 19 élèves et 2 adultes sont morts. Le tireur armé d'un fusil d'assaut et d'un gilet pare-balles a été tué par la police. La fusillade s'est produite alors que Joe Biden rentrait de sa tournée en Asie. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, il a appelé à affronter le lobby des armes qui refuse de réguler les armes à feu. Le président américain s'est dit écœuré et fatigué par cette nouvelle attaque meurtrière. 5 soldats turcs tués mardi lors d'une opération militaire dans le nord de l'Irak. Ils ont été la cible de tirs de combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan, un bilan donné par le ministère turc de la Défense. Ces pertes sont annoncées alors que le président Erdogan souhaite lancer une nouvelle opération militaire turque dans le nord de la Syrie. Le président turc veut créer une zone de sécurité large de 30 km. À la frontière de la Turquie. Les États-Unis ont mis en garde Ankara contre une telle opération militaire dans le nord de la Syrie. La plus ancienne école de journalisme dans le monde a décidé de rendre hommage à Shirin Abu Akleh, la journaliste palestino-américaine, tuée par balle à Jenin le 11 mai dernier. Il s'agit de l'ESJ, l'école supérieure de journalisme basée à Paris. Entretien avec son président, Guillaume Jobin.
J'ai rencontré brièvement il y a un an quand j'étais en Palestine. Donc c'est quelqu'un d'assez impressionnant déjà par son parcours professionnel. C'est travailler quand même pour Al Jazeera. Et deuxièmement, moi ce que je savais d'elle, c'est qu'elle était autant appréciée de l'autorité palestinienne que du citoyen de base et ses confrères palestiniens. Sa mort, j'ai trouvé ça juste ignoble. Donc j'ai été révolté. Alors j'ai posté ça sur LinkedIn, enfin sur les réseaux sociaux en général, et je me suis pris 50 insultes disant que j'avais jamais été en Israël, que je connaissais pas la Palestine, que... Enfin, etc. Donc j'ai décidé de contre-attaquer. Il y avait 2 points qui m'énervaient dans les attaques et puis dans les médias en général. C'était que l'autorité palestinienne refusait de donner le corps et la balle aux autorités israéliennes, qui quand même, en général, on donne pas les preuves aux assassins présumés. Je dis bien présumés parce qu'on n'a aucun élément. Et puis, deuxièmement, c'est de dire qu'elle avait été tuée par des Palestiniens ou des tirs. Et là, il y a une enquête hier qui a été publiée sur le site de CNN qui explique bien les choses bien en détail. Donc on s'est réunis, tout le comité de direction de notre pôle arabophone, qui a 150 étudiants de tous les pays aujourd'hui, et des enseignants de tous les pays arabes aussi. Et on a décidé de donner le nom de la première promotion à Shirin, et aussi d'ouvrir 2 bourses, une bourse pour une femme journaliste étudiante, et une bourse pour un homme journaliste avec une fondation arabophone qui est en Turquie, qui s'appelle MENA. Et on continue. J'ai imposé à l'école qu'on ne parle jamais de politique, et surtout dans le pôle arabophone. Mais notre seul combat, qui est à la limite plus humanitaire que politique, c'est la défense des droits des Palestiniens. Pas de la Palestine, mais des Palestiniens.
Et donc, la mort de cette journaliste a suscité une grande émotion à la fois chez les enseignants de l'école supérieure de journalisme, mais aussi chez les étudiants.
Oui, tout à fait. C'est un sujet. Il y a peu de sujets qui unissent autant tous les Arabes que le sujet des droits des Palestiniens. Et donc c'est parti tout de suite. Donc j'ai dit plutôt que d'avoir des réactions qui soient ou lyriques ou tragiques ou Donc j'ai décidé qu'on allait réagir de façon professionnelle et j'aime pas qu'on tue mes intervenants, j'aime pas qu'on tue les journalistes, j'aime pas qu'on tue les Palestiniens, j'aime pas qu'on tue qui que ce soit d'ailleurs. La deuxième chose, c'est que ça vient un peu en contre-coup des accords d'Abraham, où en fait ça a été fait sur le dos de qui, au détriment des Palestiniens qui continuent à être opprimés. Enfin, j'avoue qu'il y a deux pays qui m'ont révolté. Le premier, c'était l'Afrique du Sud avant la fin de l'apartheid. Et le deuxième, c'est la situation de la Palestine, où c'est un vrai apartheid qui règne aujourd'hui. Et ça, quand on dit ça en France, en vous disant ça sur une chaîne française, je risque d'être poursuivi en correctionnel.
Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une école de journalisme. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette première promotion d'étudiants en journalisme arabophone ?
Eh bien, ils sont en train de terminer leur cursus. Ils sont entrés en mars dernier. Et après, il y a eu quelques trous à cause de la pandémie, etc. Donc, je pense qu'ils auront tous fini en juin. Donc, on fera une cérémonie de remise de diplômes virtuels, puisque j'ai des étudiants qui vont de la Mauritanie au Kurdistan, en passant par le Soudan, enfin, et Oman, ils sont dans tous les pays arabes. J'en ai en France aussi. Et on est assez contents. La promotion est majoritairement féminine. Ce qui est aussi satisfait, comme en France d'ailleurs. Et par contre, ce sont des gens qui sont déjà journalistes pour la plupart et qui veulent en fait revenir aux sources du métier avec un autre œil parisien. Pour le moment, le cycle n'est qu'à distance puisqu'il y a pour deux raisons. Il y avait la pandémie qui empêchait les étudiants de voyager. Et deuxièmement, nous on a l'entraînement du cycle à distance qu'on le fait en français depuis 8 ou 9 ans. Je sais plus. Donc c'est assez compliqué. C'est pas comme toutes les écoles qui se sont dit on va faire du distanciel et ça c'est. Deuxièmement, la France a une politique très restrictive sur les étudiants des pays arabes aujourd'hui. Par exemple, au Maroc, on est passé de 95% d'acceptation de dossiers à 38%, donc c'est quand même pas génial. Égypte, on a eu un étudiant admis à venir en France sur une vingtaine de demandes de visa. Je connais pas les raisons, mais je sais que quand on discute avec les gens des consulats de France ou de Campus France, c'est le discours qu'on entend. On voulait ouvrir en présentiel en arabe en avril, et à cause de problèmes de visa, on l'a reporté à octobre. Sachant qu'il y a quand même en Europe une grande proportion de journalistes arabophones qui vont venir étudier à Paris.
Guillaume Jobin, président de l'École supérieure de journalisme. Et puis un adolescent palestinien de 16 ans a été abattu par des soldats israéliens lors d'affrontements dans le nord de la Cisjordanie occupée. Selon le ministère palestinien de la Santé, il a été tué par les forces israéliennes lors d'affrontements près de la tombe du patriarche Joseph dans l'est de Naplouse. L'invité de Pluriel ce mercredi à 19h et 23h est Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière et ancienne candidate à l'élection présidentielle. Elle sera candidate aux législatives en Seine-Saint-Denis. Nathalie Arthaud appelle notamment à l'augmentation des salaires pour faire face à l'inflation. On l'écoute.
Je pense que quand on travaille, quand on est ouvrier, quand on est employé, quand on est technicien, quand on est aide à domicile, quand on est facteur, quand on est quand on est à la base de la société, quand on la fait tourner, on doit pouvoir vivre de son salaire. On ne demande pas la charité. Voilà, on ne demande pas la charité. Et moi, ça me révolte. Révolte de voir que nous en sommes là. Toutes les richesses que nous produisons collectivement les travailleurs, parce qu'en fait on y participe tous à cette grande chaîne productive. Moi je suis enseignante, mais il faut aussi former les jeunes, il faut les soigner, il faut les transporter, hein, pour qu'ils produisent ensuite dans les entreprises les richesses nécessaires. Bon, eh bien, nous sommes tous à la base de ces richesses. Mais à quoi servent-elles ces richesses si elles ne permettent même pas de verser des salaires dignes, susceptibles, hein, nous permettant de payer notre loyer, de nous payer de quoi acheter son fioul, nous payer de quoi faire son plein d'essence pour aller au travail en l'occurrence, de quoi nourrir la famille. Donc voilà, la question elle est là. La question elle est qu'il faut augmenter les salaires. Les salaires sont trop bas depuis trop d'années. Et là, avec la flambée des prix, évidemment, tout ça, ça prend une dimension qui est devenue insoutenable, tout simplement. Donc, il faut augmenter les salaires. Les salaires, les pensions, les allocations, il faut les augmenter, les indexer même sur l'inflation. C'est-à-dire qu'ils augmentent au même rythme que les prix.
Il faudrait aussi bloquer les prix des loyers, puisque c'est le premier budget des ménages, Nathalie Arthaud.
Il faudrait bloquer le prix des loyers. Ces loyers flambent parce qu'il y a de la spéculation. Il y a, en fait, dans la société, une minorité qui est effectivement très, 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 très riche. Très riche, hein. C'est des milliards qui sont accumulés du côté de la bourgeoisie. Bon, évidemment, ils ont de l'argent, eux, pour faire flamber le prix de l'immobilier et pour demander des loyers de plus en plus importants. Donc, c'est toute l'organisation de la société qui conduit à cela. Alors, moi, je suis pas pour chercher à mettre des rustines. Je ne sais quoi. Je suis encore une fois pour dire qu'il faut prendre sur ses richesses, il faut prendre sur ses profits, il faut prendre sur ses grandes fortunes pour augmenter les salaires, pour qu'on répartisse le travail entre tous aussi, parce qu'on pourrait arrêter avec le chômage et la précarité en prenant sur ses profits justement. Donc si on est en mesure de se battre pour tout cela, je peux vous dire qu'on remet la société sur ses pieds. Et il n'y aurait pas besoin de chercher des rustines, de recoller je ne sais quel morceau. Mais c'est une question de combat. C'est une question de combat. Moi, vous savez, la différence de tous ces politiciens qui nous expliquent qu'ils ont des très belles idées, hein, pour bloquer ci, pour bloquer ça, etc. Bon, d'abord, on les a vus au pouvoir, il n'y a aucune raison de les croire sur parole, hein. Mais en plus, moi, je pense que la réalité, c'est que si on veut que les choses changent favorablement pour nous, les travailleurs, faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte. Tout ça, c'est une question de rapport de force et de lutte collective. Je pense que indexer les salaires, les augmenter, c'est possible, oui. C'est vital, c'est nécessaire, mais c'est possible. Ça dépend justement de nos luttes collectives, de nos grèves.
Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière et ancienne candidate à l'élection présidentielle. Elle est l'invitée de Pluriel ce mercredi à 19h et 23h. Et à 19h30 et 23h30, Pluriel reçoit Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts et candidate aux législatives à Strasbourg. Les Émirats arabes unis sont le premier pays du Golfe à annoncer un cas de variole du singe. Le pays se dit entièrement préparé à toute éventuelle épidémie de ce virus. La personne contaminée est une femme de 29 ans, arrivée d'Afrique de l'Ouest, selon le ministère émirati de la Santé. Et puis en France, alors que 3 cas de variole du singe sont confirmés, la haute autorité de santé recommande de vacciner les adultes, y compris les professionnels de santé et qui auraient eu un contact à risque avec un malade. La police néerlandaise a arrêté un homme suspecté d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Syrie. Les faits remontent à 2013, alors que cette personne était membre d'une importante milice proche de Bachar al-Assad. L'homme de 34 ans, qui réside depuis 2020 aux Pays-Bas, avait demandé l'asile politique. Le président chinois Xi Jinping a reçu la haute commissaire de l'ONU chargée des droits de l'homme, Michelle Bachelet. L'ancienne présidente du Chili a entamé une visite au Xinjiang où Pékin est accusé de mener une répression féroce contre les musulmans ouïghours. L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient était l'écrivain tunisien de langue arabe Habib Selmi, auteur de La voisine du cinquième, un roman publié dans la collection Sinbad chez Actes Sud. Il évoque notamment l'apprentissage de la langue arabe par une femme de ménage tunisienne, un sujet que Habib Selmi connaît bien puisqu'il est lui-même professeur d'arabe. Extrait de cet entretien.
J'ai voulu parler de l'arabe, mais d'une manière un peu différente. L'arabe, par quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. C'est le plus important. Et ce qui, j'avoue ici aussi que ce qui m'a aidé un peu, j'ai cherché beaucoup la manière la plus subtile, la plus intelligente. Et ce qui m'a aidé un peu, c'est qu'à une année, j'ai enseigné l'arabe à des débutants, des grands débutants, mais des Français de souche, à Louis le Grand. Et heureusement, et franchement, cette année-là, elle était très très utile pour moi. Parce que les élèves, ils me posaient des questions auxquelles je n'ai jamais pensé. Par exemple, justement, l'histoire de la lettre à la fin du mot qui devient rond, il faut fermer la porte, des choses comme ça. Hein. Les images, ils voient des animaux dans ces lettres-là. Parce que, comme vous savez, la calligraphie arabe, c'est un dessin aussi, des sortes, comme toutes les calligraphies.
Et en fait, d'ailleurs, quand on enseigne, on apprend aussi.
Voilà, c'est-à-dire, j'ai appris beaucoup de choses avec ces élèves-là. Évidemment, je n'ai pas tout mis. J'ai essayé d'adapter ça à l'intelligence et à la réflexion d'une femme qui n'a jamais été à l'école et qui a son âge aussi, parce que ce n'est pas un enfant.
C'est un roman, Habib Salmi. Vous parlez aussi d'autres romans, puisque Zora est très intéressée par les livres qui sont dans la bibliothèque de Kamal, et elle s'intéresse notamment à un livre en particulier, Noces de Zayn, de Tayeb Salir. Pourquoi ce roman? J'imagine que c'est un de vos livres de chevet.
Oui. Effectivement, je l'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup Tayeb Salah, que j'ai rencontré d'ailleurs, il a travaillé des années ici à l'UNESCO à Paris.
Et vous êtes publié chez le même éditeur.
Voilà, j'aime beaucoup cet écrivain-là, et j'aime le bonhomme aussi, il est décédé maintenant. Et c'est vrai, c'est un tout petit livre qu'on oublie souvent, on parle souvent de l'autre grand roman qui est Six ans de l'immigration vers le nord, qui est un succès immense, hein, Moussa Ibn Hujr et le Chamel. Mais on oublie ce tout petit roman qui est adorable, qui se passe dans un tout petit village, dans la campagne soudanaise, et qui ressemble beaucoup à mon village. Et c'est vrai, c'est un petit livre mince. Donc ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est qu'elle, pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'elle a peur du gros livre, du grand livre. Elle a vu celui-là, elle l'a trouvé sympathique. Donc elle a voulu le lire. Et comme je lui ai parlé de tout de suite le titre aussi, les noces, le mot noces, vraiment, elle l'a interpellé. Il m'a dit, c'est quoi l'histoire? Je lui ai dit, c'est l'histoire d'amour. Je lui ai parlé d'une manière générale. Elle m'a dit, quel amour, qui a aimé qui? Et le dialogue s'est poursuivi sur ce temps-là.
Alors, mais vous avez un regard très empathique sur elle. Un regard très bienveillant.
Ah oui. Mais j'avoue que j'ai toujours eu un faible pour les légendes qui appartiennent à cette catégorie sociale. Et d'ailleurs, dans l'un de mes anciens romans, La Nuit de l'étranger, en arabe, Hofer Dafi, qui a été traduit chez Actes Sud aussi, il y avait une femme, un personnage magnifique qui s'appelle Havria. Elle s'occupe de tout. Son mari, il est un peu, je ne dirais pas qu'il est, il est un peu, il est un peu, c'est vrai, violent. C'est elle qui est allée à l'école, lorsque leurs enfants sont convoqués, lorsque les parents sont convoqués par l'administration. C'est elle qui va à la mairie, qui remplit, c'est elle qui fait les demandes. Et c'est ce qu'on voit, c'est vrai. Les femmes arabes dans ce milieu-là d'immigrés, elles font un travail considérable. D'ailleurs, elles apprennent la langue beaucoup plus vite que les autres. Elles s'intègrent beaucoup plus facilement que les hommes, que leurs maris. Et c'est vrai, c'est ce travail-là, c'est elle qui fait tout.
Habib Salmi, auteur du roman La voisine du cinquième, publié chez Actes Sud. Enfin, après le RERB, les syndicats de la RATP appellent à la grève sur le RERA samedi, qui sera le jour de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France. Les syndicats dénoncent un manque d'effectifs. La RATP a déjà connu cette semaine 3 jours de grève sur son réseau de bus et de tramway. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.